The High Public, auquel je rappelle se font écho deux cycles de films, Les écrans sociaux au cinéma Georges Méliès et Sun in Your Head, organisés par Le Peuple qui manque. Donc on est à la troisième séance Droit des corps, par les mots, par la loi, que tu voulais renommer.
Oui, c'est Droit des corps, oui. Le véritable intitulé, je pense, il est plus pertinent de dire que Droit des corps, deux points, par les mots de la loi.
Très bien. Donc, oui, je vais la présenter. En présence de Maître Caroline Mécari, donc après la liste est longue, avocate au barreau de Paris depuis 91, membre du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris de 2005 à 2007 et membre du Syndicat des avocats de France, anime le réseau avocat du réseau d'aide aux victimes d'agression et de discrimination, RAVAD, et membre du réseau européen de lutte contre les discriminations, ESCOL, et en collaboration avec l'ILGA. Que ça est très proche d'Acte Paris. Donc on la connaît pour certaines affaires, notamment les mariés de Bègle, Colette Chilan, et on date dernièrement Van Est. Donc, c'est à toi.
Bon, merci. D'abord, merci de m'avoir invité pour cette série de conférences. J'aime beaucoup le titre global, en fait, « Nos corps à l'épreuve de la République ». Je trouve que c'est un joli titre. Et effectivement... on pourrait tout à fait considérer finalement que le droit est un instrument qui met en couple les corps. Bon, alors j'ai choisi de traiter un thème qui est un petit peu, j'ai envie de dire à l'aventure. Droit des corps par les mots de la loi. Bon, pour comprendre le sens de mon intervention, il faut un petit peu d'abord savoir qui je suis, d'où je parle. Et donc, comme on vient de vous l'indiquer, je suis avocate. Je suis une avocate plutôt engagée et j'utilise dans ma pratique deux instruments. J'utilise le droit et la parole pour défendre des citoyens qui viennent me voir pour de multiples raisons. Soit parce que l'institution, entre guillemets, justice, se saisit d'eux, par exemple en matière pénale, mais bien évidemment, ça n'est pas la seule matière, soit parce qu'ils saisissent l'institution, entre guillemets, justice, par exemple en droit de la famille ou en droit du travail. Et ma pratique du droit, alors le droit, je rappelle, je vais être parfois un petit peu pédagogique et peut-être un peu redondante, mais je pense que c'est toujours important de dire et de définir ce dont on parle. Le droit, c'est en fait, le droit positif, c'est l'ensemble des règles qui réglemente les relations entre les citoyens, quels qu'ils soient, les entités juridiques, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales. Et c'est donc ce corpus de textes qui est à la fois issu de la Constitution, des conventions internationales, de la loi au sens propre du terme, c'est-à-dire ces textes qui sont adoptés par les parlementaires, les règlements et les décisions de justice. Et donc, ma pratique du droit, c'est-à-dire l'usage que j'en fais et la pratique de la parole me conduisent à faire au préalable, deux constats avant de traiter de façon plus précise le thème que j'ai choisi d'aborder. D'abord, c'est peut-être une évidence pour vous, mais enfin, j'aime bien rappeler cette évidence parce que finalement, elle n'est peut-être pas si évidente que ça. C'est que le droit est toujours le fruit d'une délibération sociale à un moment donné, dans une société donnée, dans un temps donné. C'est ce qui explique les multiples variations temporelles et géographiques, en fait, des règles qui nous gouvernent. Et tout ce que nous pouvons penser, tout ce que nous pouvons dire, écrire, et qui circule dans la société, que ce soit au travers de rencontres comme ce soir, que ce soit dans la presse, que ce soit entre amis, que ce soit au bistrot, eh bien, tout ce qui circule et qui, à un moment donné, sur un thème particulier, va devenir une idée de droit, va éventuellement voir devenir la loi. Et ça, c'est une chose très importante parce que, enfin, ça me semble très important parce que ça rappelle bien le constat selon lequel le droit ou la loi, comme on le dit, enfin, comme on la nomme, n'est pas quelque chose de séparé de la société, mais en est totalement issu. On peut pas dire qu'il y aurait d'un côté le droit et de l'autre tout le reste. Ça n'est pas du tout ça. Le droit n'est pas du tout déconnecté de toutes les autres disciplines et n'est pas du tout déconnecté de la vie sociale. On pourrait même dire, si j'ai envie de pousser un petit peu plus loin, que le droit au fond est totalement bête. Il est même totalement sans imagination, puisqu'en fait, ce qui devient droit n'est que la mise en forme de telle ou telle idée, de telle ou telle volonté à un moment donné dans une société donnée. Et donc, en réalité, il n'est rien que ce qu'à un moment donné, l'ensemble des citoyens ont considéré que cela devait devenir une règle applicable à tous. Et c'est à cause de cela que ces règles qui nous gouvernent sont totalement différentes aujourd'hui de ce qu'elles pouvaient être, par exemple, sous l'Ancien Régime, mais même en allant beaucoup plus, enfin en étant plus précis, de ce qu'elles pouvaient être il y a 15 ans, et que les règles qui nous gouvernent aujourd'hui, soit le 17 décembre 2009, 2008, pardon, seront totalement différentes de celles qui nous gouverneront dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, dans 50 ans. Donc, ce que j'aime bien là, c'est de rappeler l'idée d'une espèce de plasticité, en fait, du droit. Et puis, je souhaite rappeler une deuxième évidence, en tout cas pour moi, c'est une évidence, c'est que fondamentalement, le droit, c'est un instrument politique. C'est-à-dire que c'est un instrument qui a pour objet de gouverner la cité, au sens propre du terme. D'abord, bon, la loi, telle qu'on l'entend aujourd'hui, elle est votée par le Parlement, donc c'est-à-dire par des élus, donc bien évidemment par des citoyens qui ont été choisis par d'autres citoyens pour appliquer telle ou telle politique. Et donc là aussi, en fait, l'idée principale, c'est qu'il n'y a pas de césure entre d'un côté le droit et de l'autre la politique. C'est totalement illusoire que de dire « Ah, moi je ne fais pas de politique en disant que je fais du droit ». C'est totalement faux. On fait toujours de la politique quand on pratique le droit, qu'on le sache, qu'on le reconnaisse, ou qu'on ne le sache pas, ou qu'on veuille l'ignorer. Quand le législateur décide de dépénaliser telle ou telle pratique, comme par exemple la dépénalisation des pratiques homosexuelles en 82, c'est un vrai choix politique, ou d'abolir la peine de mort, c'est un choix politique, c'est-à-dire dans quelle société nous voulons vivre. De la même manière, d'une façon à mon sens régressive, lorsque le législateur, il y a quelques années, a décidé de pénaliser le racolage passif, donc de faire de la prostituée une délinquante, c'est un choix politique. De la même manière, lorsqu'il décide d'abolir les droits de succession entre conjoints ou pacsés, là aussi c'est un choix politique. Ou d'ouvrir le travail le dimanche, ou encore de déterminer les règles d'entrée et de séjour des étrangers. Et donc, c'est bien parce qu'au fond, on sait aussi que le droit est fondamentalement un instrument politique, que de part et d'autre, qu'on soit, selon les clivages français, à droite ou à gauche, eh bien, on essaye de faire changer la loi. Parce qu'on sait bien que c'est elle qui va déterminer, en fait, de grands axes. Et c'est bien parce qu'on a bien le sentiment que ça détermine la société dans laquelle on vit que nous essayons de la faire changer dans le sens que nous souhaitons. Évidemment, comme tout le monde ne partage pas forcément notre opinion, eh bien, nous luttons. Et pas toujours avec succès. Mais enfin, bon. La troisième observation que je veux faire, qui me semble importante, et peut-être que pour vous c'est une évidence, mais je trouve que c'est vraiment important, puisqu'il s'agit d'évoquer par les mots de la loi, c'est de dire que l'usage de la parole publique, que ce soit comme ce soir dans un petit discours, une petite intervention, ou que ce soit en plaidant ou ailleurs, eh bien, ça n'est pas toujours performatif, c'est-à-dire que je peux dire des choses, je peux énoncer des choses, mais ça ne va pas forcément induire un effet direct sur votre comportement, sur votre pensée, sur les décisions que vous allez prendre. C'est clair qu'il ne suffit pas d'utiliser les mots pour que l'autre entende ce qui est dit. Il ne suffit pas de plaider pour avoir gain de cause devant une juridiction. Et il ne suffit pas de faire un discours politique pour changer une société politique. Et là, je vais faire juste une petite digression. C'est que ce qui m'apparaît depuis politiquement, au sens traditionnel du terme, c'est que depuis plusieurs années, en fait, je crois fondamentalement qu'entre, et surtout depuis l'avènement de Nicolas Sarkozy au pouvoir, une des batailles les plus importantes, en fait, que nous avons à mener, en tout cas que moi j'estime que nous avons à mener quand on se situe sur le bord qui est le mien, qui est véritablement à gauche. C'est vraiment une bataille sur le langage, une bataille sur les mots, une bataille sur les concepts. Et ça, c'est loin d'être négligeable, parce que il y a un véritablement détournement du langage quand on entend Nicolas Sarkozy parler de liberté alors qu'en réalité il s'agit d'exclusion. Quand on entend utiliser des concepts qui sont en réalité totalement pervertis, eh bien, quand on arrive à ce degré de différence entre les mots utilisés et ce qu'ils recouvrent, on est vraiment en danger, et je pense vraiment que l'état de droit est en danger, ou la démocratie est en danger. C'est un seul exemple. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Quand Christian Van Est, donc la Cour de cassation a entre guillemets blanchi, se présente comme étant le héros de la liberté d'expression, il est fondamentalement dans une malhonnêteté intellectuelle, puisqu'en réalité, il s'arroge le droit de pouvoir dire quelque chose qui nuit à la réputation d'autrui, en l'occurrence les homosexuels, en disant d'eux donc qu'ils sont inférieurs moralement aux hétérosexuels. Et donc, il y a une malhonnêteté intellectuelle de sa part, à se présenter comme étant le héros de la liberté d'expression, à se présenter comme étant le continuateur de Voltaire, qui disait que je ne suis pas d'accord avec vos idées, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez les énoncer. Et ça, c'est vraiment une chose qui est, qui est de plus en plus prégnante, et donc il est très important de savoir manier le langage, parce que malheureusement, la façon dont on utilise le langage, la façon dont on présente nos idées, elle devient plus importante presque que les idées, que les thèses elles-mêmes. Et donc maintenant, revenons au droit des corps ou au droit du corps, par les mots de la loi. D'abord, en fait, j'ai juste réfléchi au fait de savoir si on pouvait dire qu'il existait un droit des corps ou un droit du corps. Au sens propre du terme, on ne peut pas le dire, sauf à faire un raccourci, car le droit, certes, appréhende les corps, mais il ne nomme jamais le corps, ou quasiment jamais. En tout cas, il n'est jamais nommé comme tel. En réalité, le droit appréhende ce que nous appelons des sujets de droit, ce qu'on peut appeler aussi des citoyens, ou ce qu'on peut appeler la personne juridique, qui est perçue comme un tout, c'est-à-dire corps, esprit, pensée, âme pour ceux qui y croient, et non pas uniquement corps brut, simple chair. Donc c'est vraiment, le droit n'appréhende pas le corps en tant que tel, mais l'appréhende dans une globalité. Et ce qui est incontestable, c'est que la loi, qui est une mise en mots des idées, n'est pas sans effet sur le sujet de droit que chacun de nous sommes. Et c'est bien parce que nous savons bien que ça n'est pas sans effet que nous cherchons régulièrement à faire changer les lois pour faire entendre un certain nombre de choses. Et en fait, il y a un double mouvement en fait socialement qu'on peut décrypter, c'est que à la fois la loi, elle a un effet sur les comportements, sur la manière dont on va appréhender une situation ou un comportement, et en même temps, de l'autre côté, en fait, les discours ont un effet sur la loi, sur le texte même de la loi, c'est-à-dire sur son évolution et sur ses changements. Et c'est ces deux effets, enfin c'est ces deux mouvements que je voudrais aborder avec vous un peu rapidement, plutôt au travers de quelques exemples en fait. D'abord, l'effet de la loi sur les corps. L'effet de la loi sur les corps, il n'est jamais absolu. Vous allez comprendre tout de suite, c'est que c'est un effet relatif. Parce qu'il ne suffit pas de légiférer, il ne suffit pas de prendre un texte, quel qu'il soit, pour changer un comportement ou pour imposer une façon de faire. Exemple tout bête, le code pénal interdit de tuer, interdit de violer, interdit de voler. C'est très clair, il n'y a pas d'exception à ça. Et pourtant, il y a quand même des meurtriers, il y a des violeurs et des voleurs. Donc, ça montre bien cette espèce d'effet relatif de la loi. Mais néanmoins, et c'est important, c'est important de le rappeler. Donc, mais néanmoins, la loi a ce qu'on peut appeler un effet instituant. Donc, les mots de la loi vont avoir un effet instituant pour chacun d'entre nous. Alors, cet effet instituant, il n'est pas total. Il est ce que je disais relatif. Et il faut écarter tout de suite l'idée même que, ce que moi j'appelle le fétichisme de la loi. C'est assez simple, il y a des gens qui pensent qu'il suffit d'adopter une loi pour que celle-ci devienne la réalité, devienne la chose. Et donc, non, la loi, le corpus du droit, c'est pas ça. À la fois, ça a un effet instituant, mais ça nous laisse une certaine marge de manœuvre. Ça laisse de l'espace pour les sujets de droit que nous sommes. Et donc, un effet relatif, un effet instituant au travers de la légalisation d'une situation, et c'est parce que la légalisation d'une situation va modifier le regard que nous avons sur cette situation. Elle va rendre acceptable cette situation là où cette situation pouvait être hors la loi. Et c'est ce qui explique bien, je pense, les luttes pour la reconnaissance de tel ou tel droit. Je vais prendre deux exemples, en fait, pour illustrer mon propos. Je vais d'abord parler du transsexualisme. Alors, je l'ai choisi à dessein parce que le transsexualisme, ça concerne, ou en tout cas, ça touche à une question que chacun d'entre nous, on peut entretenir avec notre identité de genre, c'est-à-dire une part vraiment très, très, très intime de nous-mêmes. Très longtemps, donc, la réglementation, ou plus exactement, enfin, on va dire le droit applicable au transsexualisme, donc a vraiment une emprise, là pour le coup, très manifeste sur le corps. Mais en réalité, c'est un corps pris dans son ensemble, parce qu'on ne peut pas séparer un corps de la personne qui l'habite, en fait. Il faut qu'il y ait ce lien pour qu'il y ait une plénitude, une forme de plénitude, en tout cas. Donc, pendant des années et des années, la Cour de cassation a refusé la modification du changement de la mention du sexe de la personne transsexuelle. Et la Cour de cassation disait principe de l'indisponibilité du corps humain, principe de l'indisponibilité de l'état des personnes. Ces deux principes veulent dire, en fait, grosso modo, qu'il appartient à l'État, puissance publique, d'avoir quand même un certain regard sur qui vous êtes, homme, femme. Voilà. On ne peut pas faire ce qu'on veut totalement dans une liberté absolue. Tout en précisant quand même que, comme tout principe juridique, évidemment, il y a des exceptions. Et donc, sur la question du par exemple, le fait de faire des sports dangereux, faire un sport où on va recevoir des coups, comme la boxe, ou le fait d'être opéré pour une maladie X ou Y. Donc là aussi, on a une atteinte au corps. Donc les principes d'indisponibilité du corps humain n'est pas un principe absolu. Et donc, toute la question autour du transsexualisme, c'était finalement d'élargir l'exception au principe de l'indisponibilité du corps et de l'indisponibilité de l'état de la personne. C'est-à-dire, l'état de la personne en droit, ça veut dire son état civil, en fait. Votre nom, votre prénom, la mention de votre sexe, je crois que c'est ça. Plus ensuite, c'est marié, aujourd'hui paxé, ou veuf, ou divorcé. Donc la Cour de cassation, pendant des années, a refusé la modification de la mention du sexe. Et il a fallu attendre 1991, c'est-à-dire une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France pour la jurisprudence de la Cour de cassation pour que, enfin, en droit interne, en droit français, la Cour de cassation modifie sa position et admette qu'à partir du moment où un transsexualisme a été diagnostiqué, il puisse y avoir un changement de l'état de la personne et donc une modification de la mention de son sexe sur son acte d'état civil. Voilà, ça, c'est l'exemple, pour moi, c'est un des exemples où la modification de la loi par une décision de jurisprudence, mais peu importe, parce que comme je le disais tout à l'heure, le droit positif, c'est aussi la jurisprudence, eh bien cette modification va permettre à un groupe de personnes qui, entre guillemets, étaient hors champ juridique, de rentrer dans le champ juridique. Et ça modifie, ça ouvre des portes et ça modifie le regard, d'une part, que l'on peut avoir sur les personnes transsexuelles, et ça ouvre des portes pour les personnes transsexuelles qui ne sont plus barrées dans leur cheminement par une décision qui prend souvent sa source en fait dans des conceptions morales issues de la religion, me semble-t-il. Deuxième exemple, il sera peut-être un petit peu plus parlant, enfin bon, je ne sais pas en fait, mais c'est l'exemple de l'adoption du PACS. Pour Très simplement, bon, rappelons quand même que les pratiques homosexuelles étaient pénalisées jusqu'en 1982, qu'elles ont été dépénalisées en 1982. Des années qui homosexuels délinquants, mais bon, qui restent discrets, une espèce de pas de revendication de la de couple sexuel, pour faire très simple, vous aviez un couple d'hommes dont il mourait, pas comme le cubinage hétérosexuel, récupérer le droit au bail. Et donc, situation extrême. La première revendication pour la mise en place et pour les couples sont nés. Ça a été une bataille un petit peu difficile. À l'échelle individuelle, c'est un petit peu long, ça a pris 10 ans, mais à l'échelle de l'histoire, c'est rien du tout. Et donc, en 1999, le législateur a adopté la loi sur le PACS qui légalise ou le couple homosexuel et reconnaissance du couple homosexuel par la loi, par les mots de la loi, même si le texte de la loi ne disait pas les couples de gays ne sont pas des les textes qui tendent à plus de neutralité entre guillemets. Eh bien, par cette reconnaissance, il y a eu un changement de regard, hein, même si les choses ne sont pas totalement gagnées, il y a quand même un changement de regard sur la légitimité ou la légalité du couple lesbienne ou du couple de gays. Et donc, on perçoit bien l'effet qu'a eu le texte législatif, son importance, et d'où d'ailleurs l'importance des revendications pour cesser d'être hors la loi, d'être... Donc, voilà le deuxième exemple qui montre bien, me semble-t-il, instituant et de la loi. Et puis, à l'opposé, il y a ce qui va permettre la modification de la loi elle-même, c'est-à-dire c'est ce que moi j'appelle l'effet de nos discours et de nos comportements qui vont modifier, qui vont permettre une évolution législative dans tel ou tel domaine, qui à leur tour va permettre une évolution des comportements et des discours. Et là, je vais reprendre mon exemple sur le PACS. La continuité, en fait, de l'adoption du PACS, hein, ou plutôt ce que a permis le PACS d'une certaine manière, c'est que, bon, à partir du moment où il est une reconnaissance symbolique du couple homosexuel, eh bien, il permet dans un deuxième temps, l'ouverture du débat sur l'ouverture du mariage civil pour tous les couples ou sur l'homoparentalité. C'est donc, c'est parce que cette porte-là a été ouverte que dans la société, je ne parle pas au Parlement parce que parfois au Parlement ils sont en retard et pour des tas de raisons, mais au sein même de la société, le débat a pu s'ouvrir sur une évolution de la loi. Et c'est ce débat sociétal, avec bien sûr la célébration par Noël Mamère en juin 2004 du mariage de Bègle, mais qui d'une certaine manière n'a été possible que parce que le pas du PACS avait été franchi. C'était beaucoup plus compliqué de le franchir avant 1999, et là je peux en parler tout à fait sereinement, puisque avec ACT UP, on avait envisagé de susciter une procédure judiciaire dès 1998-1999 pour obtenir la possibilité de se marier. Et on ne l'avait pas fait parce que bon, les choses n'étaient pas mûres. Mais 1999-2004, il y a déjà 5 ans qui se sont écoulés, et là, la situation est différente. Et donc, le mariage de Bègle devient possible, et le mariage de Bègle fait un tel retentissement que les discussions s'ouvrent. Et qu'on voit bien, au travers des exemples étrangers, que ce soit aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, au Canada ou dans un certain nombre d'États américains, qu'il y a des ouvertures du mariage civil à tous les couples. Donc, le discours, notre discours, nos mots, les mots que nous utilisons, les combats que nous menons, permettent aussi un changement des mots de la loi. L'autre exemple sur lequel, là aussi, on est en vrai, enfin, on est en plein débat, c'est la gestation pour autrui. Vous savez ce que la gestation pour autrui, c'est la possibilité donc d'avoir recours à une femme qui accepte de porter un enfant pour un couple qui ne peut pas en avoir. Et là, on est vraiment, on est au cœur du débat. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, la Cour de cassation a rendu un arrêt. Alors, je vais juste faire un petit rappel historique. En fait, il y a un an, en octobre 2007, la Cour d'appel de Paris avait rejeté une action du parquet, du procureur de la République, qui demandait à ce que la transcription de deux enfants qui étaient nés donc par une gestation pour autrui aux États-Unis soit annulée. Donc la Cour d'appel, en rejetant l'action du procureur qui demandait l'annulation donc de ces actes d'état civil, validait de facto, même des jurés en droit, le fait que ce couple de Français qui avait été aux États-Unis pour avoir ces deux enfants ait eu recours à la gestation pour autrui, alors même que le droit français l'interdit. Le Code civil dit très clairement que toute convention portant sur la procréation ou sur la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Bon. Donc, la Cour d'appel avait validé. C'était un pas vraiment intéressant. Et c'était d'autant plus intéressant qu'elle avait validé, en fait, elle avait à la fois écarter l'action du parquet sur un problème de procédure, et ça suffisait pour rejeter l'action du parquet, mais elle avait ajouté une motivation, et elle avait ajouté une motivation qui ne lui était pas demandée. Elle avait invoqué l'intérêt des enfants en disant grosso modo, et en plus, si on procédait à l'annulation que vous demandez, vous, ministère public, ça ne serait pas dans l'intérêt des enfants. Bien, la Cour de cassation, toujours assez conservatrice, il n'y a jamais rien de bon à attendre de la Cour de cassation. Il faut savoir qu'en matière de droit de la famille et en matière de droit pénal, la Cour de cassation a toujours des positions très conservatrices. Petit exemple, il a fallu 70 ans à la Cour de cassation pour admettre qu'une concubine pouvait être indemnisée en cas de décès de son compagnon, parce que concubinage, ma foi, ça n'était pas une situation juridiquement protégée. Donc 70 ans entre 1929 ou 1930 et 1970, pardon, c'était pas 70 ans, c'était 50 ans, date à laquelle, là oui, on va avoir ce début de reconnaissance. Donc vraiment, ils mettent du temps. Donc là, la Cour de cassation vient de casser l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en lui disant grosso modo, bah, vous ne pouviez pas dire que le parquet, il n'était pas recevable à agir, surtout quand vous-même vous constatez que les actes d'état civil qui ont été transcrits résultent, non pas eux-mêmes, mais bon, de l'histoire d'une gestation pour autrui. Et donc il y a un renvoi de cette affaire devant une autre formation de la Cour d'appel de Paris. On sent bien à cette motivation que la Cour de cassation indique à la Cour d'appel de renvoi qu'elle a plutôt intérêt à dire qu'il faut annuler les actes d'état civil. Donc, j'évoque cet exemple pour vous dire que c'est aussi au travers de toutes les délibérations, entre guillemets, du corps social, c'est-à-dire nos délibérations, je suis pour, je suis contre, il y a ça comme inconvénient à la gestation pour autrui, ça va être une exploitation des femmes, mais non, c'est une liberté patative, il vaut mieux encadrer que pas encadrer, parce que quand vous encadrez pas, etc. Tout ça, plus le rapport du Sénat, plus la pensée de chacun, va à un moment donné faire que la loi va être modifiée, la loi va changer. Bien sûr, ça prend du temps, mais notre discours aura un effet sur les termes de la loi. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, en conclusion, je vais être super rapide parce que j'ai juste envie de vous dire, ne cessons pas de parler et nos corps feront le reste. Voilà, maintenant la parole est là.
Merci Caroline. En tout cas, tu sembles très optimiste par rapport à la loi, contrairement à moi. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Très bien. Moi, j'en avais une. Ouais. Il y a un truc qui me dérange dans l'énoncé même des lois. Et c'est peut-être mon aigreur et mon pessimisme constant, mais quand je vois une loi contre l'homophobie qui est mise en place en 2004, et même si je sais que ça constitue des garde-fous par rapport à des dérives, j'ai la sensation qu'on entérine de nouveau la question inhérente de l'inégalité entre plusieurs types de populations. Alors, je sais que ça reste un moyen de protéger, mais j'ai l'impression que ça ne permet pas de faire sauter l'inégalité.
D'abord, c'est quoi une inégalité? Alors, il y a plusieurs inégalités, en fait. Bon, vous savez tous que notre Constitution, elle dit les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Bon. Donc, il y a un niveau d'égalité qui est une égalité, entre guillemets, formelle ou juridique. C'est-à-dire que une catégorie de citoyens qui est placée dans la même situation doit être traitée de manière similaire sur le plan juridique. Mais ça veut dire aussi, à contrario, qu'une catégorie de citoyens qui est différente d'une autre catégorie de citoyens peut être traitée différemment juridiquement. Je vais vous donner deux exemples, ça vous allez comprendre tout de suite. Par exemple, on ne traite pas juridiquement, les droits et les devoirs des mineurs ne sont pas les mêmes que les droits et les devoirs des majeurs. De la même manière que les droits et les devoirs des ressortissants français ne sont pas les mêmes que les droits et les devoirs des ressortissants étrangers, parce qu'on considère qu'ils ne sont pas placés dans une situation similaire. Alors, on peut effectivement toujours réinterroger ce qu'est la question de la différence. C'est-à-dire, est-ce que objectivement c'est différent ? Enfin, comme je vais essayer de, il faut que je trouve un exemple qui soit parlant. Parce qu'en fait, le droit positif ne fait que créer des catégories. Il y a la catégorie du salarié qui n'est pas la même que la catégorie de l'employeur. Le droit ne fait que créer des catégories, il n'y a que ça. Mais ce qui est interdit, c'est qu'au sein d'une même catégorie, il y ait des différences de traitement. Donc ça, c'est le premier niveau. Et puis, il y a, alors, et ça c'est plus compliqué à appréhender, c'est à partir du constat d'une certaine différence. Par exemple, il y a des gens de couleur, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des PD, il y a des lesbiennes, il y a des handicapés, il y a des trans, etc. Bon, à partir d'une particularité, quelle qu'elle soit, c'est une de celles que je viens d'énoncer, ce qui pose problème, c'est pas d'énoncer cette particularité. Enfin, en tout cas, pour moi, ça pose pas problème de dire, bah, par exemple, bah, je suis noire, je suis juive, je suis lesbienne, je suis femme, je suis homme, ou de dire, bah, l'autre, bon, il est pédé, il est noir. Bon, ça n'a pas d'importance. C'est un constat d'une réalité. Ce qui est grave, et c'est ça, à mon avis, qu'il faut combattre, parce que sinon, à mon avis, on mélange tout, c'est, en raison d'une de ces différences, dire bah, t'as pas les mêmes droits que l'autre. Alors, je vais prendre l'exemple de l'homosexualité parce que ça me semble quand même assez parlant. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'en 2008, l'homosexualité, qui, je le rappelle, n'est même plus considérée comme une maladie au sens de la psychiatrie, qu'est-ce qui fait qu'elle justifie aujourd'hui le fait qu'on accepte que vous mariez civilement ou pas? Qu'est-ce qui fait que moi, si je vis avec une femme, je ne peux pas me marier, alors que si je vis avec un homme, je peux me marier? Au nom de quoi, donc, il y a cette différence de traitement simplement parce que je suis homosexuelle? Essayons de trouver des raisons objectives, rationnelles. L'homosexualité, c'est une sexualité parmi d'autres. On sait très bien aujourd'hui que c'est une sexualité parmi d'autres. Bon, et alors? Et pour ça, je ne devrais pas pouvoir me marier? Donc c'est ça qui doit être critiqué. C'est parce qu'en fait, on vous dit, ah ben non, vous ne pouvez pas vous marier, vous êtes différent. Ok, moi je veux bien, je suis différente, mais en quoi cette différence justifie une différence de traitement juridique? Je vais prendre un autre exemple qui sera peut-être plus parlant pour d'autres. Pendant très longtemps, il y a vraiment eu une inégalité juridique entre les hommes et les femmes. Et pendant très longtemps, on a dit, Ah bah oui, mais les femmes sont différentes des hommes. Elles ont une complexion plus fragile, patati patata, donc il faut qu'elles aient moins de droits. Donc jusque dans les années 60, les femmes ne pouvaient pas gérer un compte bancaire toutes seules. On avait le régime d'Hôtel, bon, pourquoi pas, et tout ça étant issu historiquement, ça s'explique, etc. Bon, aujourd'hui, on a une égalité de droits entre les hommes et les femmes. Je dis bien de droits, hein. Mais qu'est-ce qui pouvait justifier encore dans les années 70 que le fait d'être femme aboutissait à ce que vous ayez moins de droits, à ce que vous soyez placée sous la coupe de votre mari si vous étiez mariée, puisque encore c'est tombé juste en 70 en fait. Bon, ben, la puissance paternelle, mais voilà, qu'est-ce qui faisait cette justification? Donc c'est toute une série de préjugés, c'est toute une série, comment dire, de pensées, de croyances, issues d'ailleurs de la religion, soyons clairs, c'est vraiment très clairement issu des religions, et les trois religions du livre là-dessus, elles sont kiff-kiff, hein. Et il n'y a pas qu'elles d'ailleurs quand on va aussi un petit peu ailleurs. Donc voilà, c'est ça. Au nom de quoi une différence peut-elle encore, enfin, ce type de différence de sexe, d'orientation sexuelle, de couleur, de religion, encore qu'on pourrait dire la religion, on peut la choisir, alors que son sexe, bon, on peut le choisir aussi, mais c'est plus compliqué quand même. L'orientation sexuelle, c'est pas une chose qu'on choisit, hein, c'est une chose qui s'impose à nous. La couleur de peau qu'on a, c'est pas une chose qu'on choisit, hein, ça s'impose à nous, on n'a pas choisi. Donc, au nom de quoi ces différences, elles justifieraient des différences de traitement juridique? Bah, elle les justifie pas d'ailleurs, elle les justifie pas, sauf encore par rapport à l'homosexualité, ça. Donc d'où le combat pour une égalité de droits, voilà, surtout dans la patrie des droits de l'homme. Donc il y a l'égalité dans la loi, il y a ce qui fait en quoi une différence peut-elle justifier une différence de traitement juridique. Donc quel est le bon critère, hein? Est-ce que c'est un bon critère? Il y a des critères qui sont bons puisque on estime, par exemple, que les enfants n'ont pas les mêmes droits, les mineurs n'ont pas les mêmes droits, les mêmes devoirs que les adultes. Voilà. Bon, peut-être que plus tard, on le remettra en cause, mais aujourd'hui, on estime que cette différence de traitement, elle est fondée. Bon. Et après, il y a encore un autre niveau qui est, je parlais des femmes, et je vais revenir aux femmes, enfin, au traitement juridique des femmes. Aujourd'hui, en droit, bon, il y a une égalité de traitement. Normalement, vous devez avoir le même salaire, on doit avoir le même salaire, on a les mêmes droits dans le couple, etc. Bien. Et pourtant, on constate qu'en pratique, ben, il y a des disparités de salaire qui sont importantes, de l'ordre de 25 à 30%. Donc voilà, ça, c'est pas une inégalité de droit, c'est une inégalité en pratique. Et donc là aussi, il faut œuvrer pour que cette inégalité cesse. Alors après, on a plusieurs moyens. On peut essayer de corriger, d'obliger, d'obliger l'employeur à payer de la même manière. Mais bon. Après, ça devient, c'est toujours très compliqué parce qu'on va vous dire, oui, alors les compétences sont pas les mêmes, patati patata. Bon, voilà. C'est contre ça qu'il convient aussi de lutter. Voilà ce que je peux dire sur la question de l'égalité ou de l'inégalité.
Oui, alors, je vais continuer. Non, si. Et d'autre part, ce que je trouve intéressant dans le droit, c'est un outil dont tout le monde peut se saisir, justement, pour le coup. Mais qu'en même temps, il y a des effets pervers, notamment ces dernières années, avec la répression de l'activisme, la criminalisation des séropos. Enfin, est-ce que c'est une escalade descendante ou tu as l'impression qu'il faut encore davantage lutter, que ça devient un outil indispensable, le droit, là, à l'heure actuelle, alors que jusqu'à présent, on avait pu s'en passer?
Bon, moi, je fais partie de ces avocats qui pensent qu'il faut utiliser le prétoire comme un instrument politique. Ce que tu énonces là sur cette série de textes qui peuvent être appliqués à tous les activistes, quels qu'ils soient, et on l'a encore vu avec l'arrestation des soi-disant membres de l'ultra-gauche, c'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur cette rhétorique qui est extrêmement... qui est utilisée à dessein, qui est extrêmement pernicieuse et qui consiste à essayer de nous faire avaler, nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Donc, le droit est politique, son utilisation, elle est politique. Elle est politique quand c'est l'État qui l'utilise, mais elle peut aussi être politique quand c'est le citoyen qui l'utilise. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des procès à tort et à travers, ce n'est pas ça du tout. Il faut vraiment bien réfléchir aux procès que l'on fait ou aux actions factuelles que l'on va effectuer, comme par exemple faire un zap ou distribuer des tracts en tenant des propos qui peuvent tomber sous le coup, par exemple, de la loi sur la presse en matière de diffamation ou de provocation à usage de stupéfiants. Donc quand on fait ça En tant que citoyen, il faut vraiment réfléchir à pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on cherche, savoir si le jeu en vaut la chandelle. Le droit, c'est je, de toute façon, on ne peut pas s'en passer, quelle que soit la société dans laquelle on vit, que ce soit la société soi-disant la plus primitive ou société les soi-disant les plus évoluées comme les nôtres, il y a toujours des règles de vie en société. Elles sont plus ou moins complexes, il y en a plus ou moins, mais il y en a toujours, parce que nous vivons en société, nous sommes ensemble, et que vivre ensemble ne va pas forcément s'imposer dehors. Donc il faut qu'il y ait un minimum de règles. Je ne peux pas imaginer un monde sans loi, je ne pense pas que ce soit possible, je pense que c'est une réelle utopie, et de toute façon, en ce sens-là, l'utopie ne m'intéresse pas, parce que même si je réfléchis à la fois à ce que je fais et pourquoi je le fais, je suis aussi dans une réalité. La réalité de notre société, c'est que bon, il y a des règles qu'il faut, je pense, vraiment apprendre à les connaître, qu'il faut apprendre à les utiliser, mais pas dans le mauvais sens du terme. Le problème, c'est que dès qu'on dit qu'on utilise le droit ou dit vous instrumentalisez, ben non. À partir du moment où un État vous offre, nous offre, toute une série de textes, eh bien, c'est bien à la disposition du citoyen. Un exemple, je vais prendre le mot parentalité. C'est des couples de femmes, souvent, qui ont souhaité avoir un enfant et elles vont, la plupart du temps, enfin, en tout cas pour un certain nombre d'entre elles, elles vont à l'étranger et elles obtiennent une insémination artificielle. Et donc, il y en a une qui devient enceinte, qui tombe enceinte et puis qui donne naissance à un enfant. Donc, cet enfant n'a qu'un seul parent, même si il a été souhaité dans le couple de femmes en question, même si les femmes sont paxées, parce qu'elles ne peuvent pas se marier encore. L'enfant, juridiquement, il n'a qu'un parent. Alors que s'il était né dans un couple hétérosexuel, il aurait deux parents, son père et sa mère, qui, quand même, aujourd'hui, dans nos sociétés, à 99% des cas, reconnaissent l'enfant. Bon. Donc, la problématique pour ces couples de femmes, c'est comment je fais pour protéger mon enfant. Enfin, je veux dire, c'est la préoccupation majeure. Qu'est-ce qui se passe si moi, qui suis la mère, je meurs? Est-ce que c'est ma compagne qui va pouvoir le garder? Enfin, des questions tout à fait basiques, pratiques, que peuvent se poser n'importe quel enfant. Bon, notre droit aujourd'hui, il n'a pas prévu cette situation. Mais quand même, quand on le lit et quand on le connaît un petit peu, bah, on s'aperçoit que bon, il y avait deux instruments, enfin, il y avait deux textes différents qu'on pouvait éventuellement invoquer. Ce n'est pas interdit pour un citoyen de dire « Attendez-moi, monsieur le juge, je voudrais l'application de ce texte parce que je rentre dans ce cadre-là. » Tout à l'heure, quand je parlais des citoyens qui sont saisis par la justice, oui, en droit pénal, ils sont saisis parce qu'on va les attraper, on va les condamner. Mais il y a des citoyens qui saisissent la justice parce qu'il y a des règles que l'on peut invoquer. Et donc, le propos, c'est donc, en l'occurrence, de demander, alors d'utiliser, oui, au sens premier du terme, une règle, enfin deux articles du Code civil qui permettent ce qu'on appelle la délégation partage de l'autorité parentale. Voilà. Et c'est en ce sens-là qu'on obtient une protection a minima de l'enfant qui est né au sein de ce couple. Donc, c'est impossible le partage de l'autorité parentale. Ça ne va pas permettre la transmission du nom. Ça ne va pas permettre la transmission du patrimoine entre la belle-mère et l'enfant. Bon, c'est un enfant qui est moins bien traité qu'un enfant qui est issu d'un couple hétérosexuel qui, lui, a deux parents, qui va porter le nom de ses deux parents. Si on trouve que c'est une chance ou pas, ça, j'en sais rien, mais peu m'importe. Et qui va hériter de ses deux parents avec un minimum de droits. Bon. Donc voilà, c'est la possibilité pour le citoyen d'utiliser les règles, les instruments qui sont à sa disposition. C'est fait pour ça aussi. Et il n'y a pas de mal à ça. Après, si on veut aller plus loin, il est évident que là aussi, comme on est dans une problématique d'inégalité de traitement des enfants selon qu'ils naissent dans des couples homoparentaux ou dans des couples hétérosexuels, eh bien, il faut revendiquer, lutter, et faire en sorte par nos discours que la loi change, enfin que les pouvoirs publics admettent qu'il y ait une évolution de la loi et que la loi devienne autre, donc que les mots de la loi soient différents.
Moi, je continue. Hein. Justement, quand tu disais que les mots étaient importants, d'ailleurs, il y a un site, les mots sont importants. Et comment les lois peuvent être sujettes à subjectivité dans leur compréhension, leur interprétation. Je voulais rappeler l'affaire Camille Barré, Monica Léon. justement sur le mariage entre deux personnes de sexe civil différent, mais d'apparence toutes les deux féminines. Je ne sais pas comment ça s'est dépatouillé au niveau de la rhétorique, je ne sais pas qui les a défendues, je ne sais pas si c'était une bonne chose de médiatiser cette affaire non plus. On en parlera plus longtemps peut-être après, mais c'est quoi ton avis là-dessus?
Mon opinion, en fait, c'est que, je ne vais pas être sympa, mais le dossier était monté de toutes pièces. Et parce qu'il était monté de toutes pièces, et qu'il était monté avec, en fait, il me semble, hein, de ce que je peux en savoir, avec la volonté il y avait une volonté de reconnaissance médiatique. C'était vraiment une erreur. Les magistrats, parce qu'en fait, là, bon, normalement, le fait que vous soyez habillé en femme, dès lors qu'à l'état civil, il y a un homme et une femme, il ne doit pas y avoir d'opposition à mariage. Mais là, il semblerait que dans cette affaire, les magistrats aient compris qu'il n'y avait pas réellement d'intention matrimoniale, pas de vraie volonté de se marier, mais uniquement une volonté de faire de la provocation. Voilà. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais enfin, sauf erreur de ma part, Camille Barré n'est plus évidemment avec la personne avec laquelle elle devait se marier, parce que c'était quelque chose qui était monté de toutes pièces et qui, du coup, n'a pas tenu la route. Ce qui est très différent d'avec le mariage de Bègle, parce que je rappelle pour le mariage de Bègle que, en fait, à la suite d'une agression d'un homme dans le Nord-Pas-de-Calais en janvier 2004, qui avait été brûlé, les associations se sont mobilisées. Ensuite, Daniel Borio et Didier Héribon ont lancé un manifeste qui s'appelle le Manifeste pour l'égalité. C'est un truc très simple, hein, c'est pour lutter contre l'homophobie, il faut que l'État cesse d'accréditer l'idée qu'il y a des citoyens de seconde zone, les homosexuels, qui n'ont pas les mêmes droits. Donc il faut offrir les mêmes droits, l'ouverture du mariage et l'adoption. Et ce texte a été présenté à Noël Mamère, qui l'a signé et qui a dit « Mais chez les Verts, nous, on est déjà pour l'ouverture du mariage à tous les couples. » Donc il a dit publiquement « Si jamais, s'il y a un couple de Béglais qui souhaite se marier, je les marierai. » Et effectivement, un couple de Béglais s'est présenté à la mi-avril à son directeur de cabinet, et a indiqué donc qu'ils souhaitaient se marier, etc. Et que, parce qu'ils s'aimaient, ça faisait 3 ans qu'ils étaient ensemble, et patati et patata. Bon, c'était pas le couple du siècle, en ce sens que, bon, genre tout à fait ordinaire, on a eu de multiples critiques. Mais ce que je peux dire, puisque j'y étais, c'est que ces gens-là, ils voulaient vraiment se marier. Ils voulaient tellement se marier qu'en réalité, on a découvert après qu'ils n'habitaient pas vraiment Bègle. Et que si on l'avait su, franchement, on aurait pris 2 militants verts de Paris qui étaient vraiment très bien, on les aurait domiciliés à Bègle parce que ça nous aurait évité bien des emmerdes. Mais que, voulant tellement se marier, ils ont donc dit qu'ils habitaient à Bègle, ils sont débrouillés pour avoir un faux contrat, enfin un contrat, peu importe. Et jusqu'à ce jour, ils sont toujours ensemble. Voilà. Et donc, le mariage, il a pu se faire, il a été célébré. Après, les juridictions, c'est d'ailleurs assez intéressant, le TGI a annulé, la cour d'appel a dit « argumentation magnifique, mais bon, quand même, je peux pas bon, ». Voilà. Non, mais c'est vrai, je vous promets, quand on lit l'arrêt, c'est très rare de voir dans un arrêt des magistrats qui rendent hommage à un argumentaire juridique. Bon. Et ensuite, la cour de cassation, bon, l'habit est trop grand pour elle, donc elle ne peut pas. Donc. C'est devant la cour européenne. Mais là, vous avez au départ au moins des gens qui sont solides dans leur vrai désir, ce qui n'était pas le cas de Camille et de la personne avec laquelle elle voulait se marier. Je pense que dans un autre dossier où on aurait un homme, une femme, dont l'un des deux serait transsexuel, qui aurait changé de sexe, qui officiellement à l'état civil est un homme et une femme, quand bien même il viendrait se présenter habillé en femme, que sais-je encore, je ne pense pas que ça poserait de difficultés, parce qu'il y aurait suffisamment d'éléments pour montrer l'intention matrimoniale. Et on ne se retrouverait pas dans ce paradoxe dans lequel on s'est retrouvé dans le dossier Camille Barré, dont on n'entend plus parler pour une très bonne raison, c'est que, évidemment, comme ça n'était pas un vrai mariage, enfin, il n'y avait pas une vraie volonté matrimoniale, personne n'a été devant la cour de cassation pour remédier à ce truc-là.
Personne n'était réellement dupe non plus, hein, honnêtement.
Non, mais moi, j'en sais rien. Je ne sais pas qui était dupe, pas dupe. Mais à partir du moment où vous essayez de... où on essaye de tromper le juge, on peut avoir que ce résultat-là.
Ouais, on est d'accord.
Voilà, c'est tout.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il fasse, qu'on soit obligé d'attendre des situations assez tragiques et authentiquement tragiques, par exemple dans l'affaire de justement du crime de la personne qui a été brûlée, pour finalement qu'il y ait une réaction des législateurs. Et est-ce que dans le cadre de l'homoparentalité, on ne soit pas obligé d'attendre une situation où il y ait un décès d'une mère pour qu'il y ait une réaction des législateurs, pour que l'opinion publique soit réellement touchée.
Ben, on peut, oui, effectivement, on peut constater que... je ne sais pas très bien quoi vous répondre, en fait. Est-ce qu'on est soumis à la tyrannie de l'émotion? Oui, peut-être. Oui, certainement, aujourd'hui, en fait. Je n'y suis pas pour grand-chose. J'essaye plutôt de faire en sorte que ça soit un peu différent. Ce n'est pas toujours facile, même en invoquant des textes qui sont... basiques, en fait, qui sont neutres, on se heurte à une opposition. Alors là, sur l'homosexualité, soyons très très clairs. L'homosexualité est encore quelque chose qui est marqué par une opprobre. Hein. Bon, c'est vrai que 82 dépénalisations, c'est pas si loin que ça, et on n'efface pas en quelques décennies, des siècles de stigmatisation de l'homosexualité, hein, parce que je rappelle quand même que c'était soit une délinquance, soit une maladie. Enfin bon, l'homosexuel, c'est quand même un malade, hein, à partir du 19e siècle. Donc c'est très compliqué. Et puis, il y a un activisme très très fort de l'Église catholique, hein, principalement, mais pas que, hein, donc les autres religions aussi. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un activisme très fort de l'autre côté. Je dirais qu'à l'instar de ce qui a pu se faire là récemment aux États-Unis sur la proposition 8, comme vous le savez, en Californie, donc certes on a élu Barack Obama, mais en même temps les électeurs de Barack Obama sont aussi ceux qui ont dit que les homosexuels ne pouvaient pas se marier en Californie. Donc bon, donc a été lancée la journée sans homosexuels. Alors il semblerait qu'elle n'ait pas eu tant d'écho que ça, mais je pense qu'à partir du moment où on montre, enfin quand on est homosexuel, qu'on est des citoyens comme les autres, ça suffit, quoi. Ça suffit d'être... On n'est pas de seconde zone. Donc, à un moment donné, il y aura un basculement. Et effectivement, il est possible que ça se fasse au moment d'un événement tragique. Alors, ça... Voilà, d'un événement tragique.
Ah, j'ai encore une autre question. Plus par rapport au transsexualisme, est-ce que tu crois que la transphobie n'est pas considérée comme un délit et ne pourra pas être considérée comme un délit tant qu'elle ne sera pas dépsychiatrisée? Le transsexualisme ne sera pas dépsychiatrisé. Est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement dans des mêmes enjeux politiques que l'homosexualité il y a quelques années?
Je pense qu'on est clairement dans les mêmes enjeux politiques avec du retard. C'est-à-dire que... Ouais, le transsexualisme est une chose plus, encore semble-t-il, plus compliquée à accepter, à admettre. Ça paraît vraiment étrange, je pense, aux yeux de très nombreuses personnes. Et donc, après, ça, en fait, je pense qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on... Enfin, je vais faire un petit rappel en arrière, parce que, en fait, tu fais référence à la loi sur la presse, donc... Il y a une loi de 1881 qui permet de poursuivre les injures et les diffamations d'une façon générale. Cette loi sur la presse, en 72, elle a été modifiée pour renforcer les peines applicables aux injures et diffamations racistes et antisémites. Bien, parce que le racisme, l'antisémitisme, c'est pas des belles choses. Bien, ce qui est bon, c'est pas très charitable. 2004, donc. Un certain nombre d'années plus tard, cette loi a été donc, la loi sur la presse a été modifiée et on a considéré que l'homophobie, le sexisme et les injures ou les diffamations à raison du handicap devaient être traitées de la même manière que les injures et diffamations racistes et xénophobes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de protection un tout petit peu particulière pour les injures et les diffamations qui sont prononcées pour ces catégories de personnes-là. Et si le législateur a souhaité cette protection particulière, c'est qu'il a aussi constaté que dans la vie de tous les jours, ces personnes pouvaient effectivement être injuriées à raison de leur race, de leur origine, de leur religion, de leur homosexualité, de leur du sexisme, quel que soit d'ailleurs dans lequel, ça peut être dans homme-femme, hein, c'est pas un sens unique. Et l'orientation sexuelle, c'est pas uniquement pour l'homosexualité, c'est aussi pour les bref, vous avez compris, hétérosexuels. Donc, cette protection particulière, très bien. Et comment elle se manifeste? Elle se manifeste par deux choses. D'abord, les sanctions sont plus sévères. Et surtout, et c'est ça qui est important, c'est qu'une association qui est déclarée depuis plus de 5 ans, qui dans ses statuts a pour objet de défendre, de lutter contre le racisme, contre le sexisme, contre l'homophobie, peut agir à la place d'un citoyen. Donc ça devient moins lourd, c'est-à-dire qu'on peut poursuivre quelqu'un pour des propos homophobes, pour des propos sexistes, pour des propos racistes, en étant une association sans qu'un individu particulier puisse dire « Attendez, moi je suis noire, je veux déposer plainte » ou « Moi je suis homosexuel ». Non, c'est pas la peine. C'est ça l'avancée en fait de la loi. Parce qu'avant ça, avant 2004, n'importe quel homosexuel ou n'importe quelle femme ou n'importe quel handicapé peut poursuivre à titre personnel, s'il est visé personnellement par une injure ou par une diffamation. Et donc, je pense qu'il faut effectivement élargir les catégories de personnes protégées par la loi sur la presse, donc aux personnes transsexuelles. Donc, ça suppose une modification de la loi et ça suppose une prise de conscience que ces personnes-là méritent une protection particulière parce que, à cause de leurs différences, elles peuvent être stigmatisées davantage que le Pékin qui n'a pas une différence particulière. Voilà. Mais ça limitera la protection à l'injure et à la diffamation. L'injure, en droit, c'est vraiment une définition précise. Hein. C'est tout terme d'invective. Donc on est plutôt du côté de salope, pédé, sale noire, salut ou pain. Enfin bon, ce genre, ça c'est une injure. Voilà. Et la diffamation, c'est aussi une chose très précise. C'est pas n'importe quoi. C'est l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de quelqu'un. Donc, si je dis Monsieur X, qui est musulman, se sert de ses fonctions en tant qu'imam pour prendre dans la caisse de je ne sais pas quoi, voilà. Là, on est en plein dans une diffamation. Parce que là, pour le coup, a raison de l'origine, enfin, pas de l'origine, mais de la... Bon. Donc, c'est le droit de la presse, c'est quelque chose de... très précis, je ne peux pas le dire autrement. Donc, faire modifier la loi sur la presse pour y inclure, et je pense que ce serait légitime, une protection particulière pour les personnes transsexuelles, oui, mais ça n'empêchera pas, ça ne doit pas empêcher, ça n'empêchera pas un débat sur le transsexualisme, comme la loi aujourd'hui n'empêche pas un débat sur l'homosexualité, l'homoparentalité, enfin on peut dire beaucoup de choses quand même. Donc le fait de sanctionner les propos est quand même très étroit. Et même si ça va vous surprendre, je pense que c'est plutôt bien que ça reste très étroit. Parce qu'il faut malgré tout qu'on puisse s'exprimer. Sinon, demeurent elles. Mais effectivement, toute la question, c'est la question de la limite. Est-ce que ce propos-là est injurieux ou diffamatoire ou pas? Et ça, c'est toujours une appréciation au cas par cas. Maintenant, si je reviens sur la décision qui a été rendue par la Cour de cassation dans l'affaire Van Est, là, au mois de novembre dernier, Christian Van Est, il était poursuivi pour les propos suivants. Christian Van Est, il a dit publiquement, hors débat à l'Assemblée nationale, puisque vous le savez que les débats à l'Assemblée nationale sont couverts par une immunité parlementaire, hors débat à l'Assemblée nationale, donc l'homosexualité était inférieure à l'hétérosexualité. Si on la poussait à l'universel, ce serait dangereux pour l'humanité. Je ne veux pas les recevoir, donc les homosexuels, parce qu'ils ne sont rien socialement et leurs comportements sont sectaires. Bien. Et ensuite, il ajoutait à un moment que l'homosexualité était inférieure moralement à l'hétérosexualité. Bon, c'est quand même pas jamais très plaisant donc de se dire, tiens, je suis inférieure moralement, tiens, je suis sectaire. Bon. Bref, il est condamné. Et la Cour de cassation décide qu'en réalité, les propos que je viens de vous rappeler, qui sont quasiment ceux au mot près, hein, qu'il avait proféré, ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression. Moi, la seule chose que je puisse dire, c'est que je pense que si Christian Avernest avait dit la même chose en parlant des Noirs ou des Juifs, on n'aurait pas admis, enfin, on n'aurait pas eu la même décision. Et donc là, on se trouve confronté, c'est quelque chose, c'est vraiment compliqué, c'est qu'on se trouve confronté à ce qui existait avant pour le racisme ou pour l'antisémitisme. C'est-à-dire on admettait avant un certain type de propos, puis à un moment donné, bon, on n'a plus admis. On admet toujours un certain nombre de propos sur les homosexuels ou sur les transgenres ou sur les transsexuels. À un moment donné, ça changera aussi. Mais c'est vraiment compliqué, voilà.
Oui, je voulais revenir au début de votre communication. Vous avez parlé de la notion du point de vue qui rappelle la question de Foucault, d'où je parle, qui parle, etc. Et moi, ça a eu un écho par rapport à ma pratique d'enseignante à l'université où je reviens systématiquement sur le rapport savoir dit neutre et conçu comme neutre et la position de l'enseignant fait que je suis féministe, de gauche, etc. Et je me rends compte dans la pratique que c'est pas toujours évident, cette notion du point... Non, je vais... c'est une question sur la pratique d'avocate. Hein. C'est pas toujours évident parce que parfois, ça bloque des choses dans le débat, j'ai envie de dire. Ça va lancer des a priori dans le débat avec les étudiants. Et que parfois, il faut un petit peu ruser, et pas forcément ce point de vue l'annoncer tel que, mais finalement le faire advenir, ou le faire sentir, suggérer, etc., pour pas que les choses soient bloquées. Or, je me dis, dans l'enseignement, dans le savoir, je suis dans les idées. C'est-à-dire que finalement, on ne reste que dans des choses abstraites. Enfin, abstraites, évidemment, avec des conséquences, mais là où pour moi c'est différent en tant qu'avocate, c'est que vous défendez des gens et des cas. Et je me dis, ça ne doit pas être facile hein, de, à la fois d'avoir cette pratique du point de vue foucadien face à des jurys. C'est un petit milieu, donc on est repéré, donc il y a des a priori, et en même temps, on défend les gens. Et comment, dans la pratique d'avocate, et ben ça se gère, tout ça, et est-ce que vous avez remis en cause vos propres techniques, enfin, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué au fur et à mesure de votre pratique, et voilà.
D'abord, je prends pas du tout la parole de la même manière quand je suis devant une juridiction et quand j'interviens comme ce soir. Là, ça me semblait vraiment... Enfin, ça me semble toujours important. Comme j'ignore qui est mon public, en fait. Enfin, bon, j'ai vaguement idée, mais en fait, j'en sais rien. Et je pense que vous venez tous d'horizons finalement assez différents. Et bon, je sais pas ce que vous trouvez, ce que vous savez. Donc, je trouve toujours important de dire, en fait, d'où je parle, effectivement. D'abord parce que ça permet à mes interlocuteurs de savoir que je parle de ça, de cette expérience-là qui est la mienne, qui est issue de mon histoire et de plein de choses. Alors, quand je suis devant des magistrats, ça n'a absolument rien à voir. Alors, quand je suis dans mon exercice professionnel, d'abord je défends des gens. Donc, je défends monsieur X, madame ou madame machin. Des personnes tout à fait identifiées, tout à fait précises. J'ai vraiment une façon de faire, et c'est une chose que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est que c'est un des métiers où on peut à la fois articuler une histoire, l'histoire de celle qui vient me voir ou de celui qui vient me voir, avec les règles de droit. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme si, l'idée qui me vient, c'est l'idée du mécano en fait. Moi, vous savez, j'ai les petites barres du mécano, ou plutôt, le client, il a les petites barres du mécano, il me les donne en vrac, etc. Et moi, je prends les barres, j'ajoute les boulons, et à partir de ces barres et de ces boulons, je vais raconter une histoire qui est une histoire particulière, qui est une histoire individuelle, qui est une histoire singulière. Et je vais, devant la juridiction, parler de cette histoire particulière, singulière. Je vais la présenter d'une certaine manière en ayant posé des jalons qui vont me permettre d'aller là où je veux amener le juge, c'est-à-dire à me donner raison, c'est-à-dire à ce qu'il admette, par exemple, une délégation de l'autorité parentale, ou à ce qu'il estime que dans ce dossier, Monsieur X, pardon, c'est plutôt des hommes, mais c'est, bon, ça arrive parfois que ce soit des femmes, mais n'a pas commis l'infraction parce que il n'y a pas d'élément intentionnel, par exemple. Peu importe. Enfin, je ne plaide jamais d'une façon générale. Je plaide pas de cause. Je plaide pour des gens. Je porte la parole de personnes tout à fait précises. Et il m'est arrivé, c'était marrant d'ailleurs, donc d'intervenir dans une, devant une juridiction. Bon, alors c'est vrai que bon, on peut me connaître. Enfin, je veux dire, je suis pas inconnue non plus. Et d'avoir, je parle en premier dans une affaire en matière familiale, et d'avoir une réflexion du parquet qui me remercie parce que j'ai pas défendu une cause, parce que j'ai parlé de gens, etc. Ce qui est très intéressant parce que ça veut dire qu'il imaginait que j'allais arriver en disant « Coucou, c'est moi, voilà, je défends la cause. » Non, pas du tout. Je parle de gens très précis, d'histoires très particulières. Et il n'y a pas moyen de passer autrement qu'en étant dans l'individu, dans l'histoire singulière. Donc, je n'ai pas du tout, évidemment, je n'ai pas du tout la même approche. Alors après, ce qui est sûr, c'est que j'y vais avec ce que je suis. Donc bon, ça, c'est encore une autre histoire.
On a beaucoup parlé des corps et de l'identité. Moi, j'aurais voulu qu'on parle un peu aussi des corps et de la pratique. Bon, dans la loi, il y a des pratiques qui sont interdites, notamment, j'imagine, les pratiques sexuelles, les choses de ce genre-là. Mais j'aurais aimé deux points peut-être d'accroche. La pratique du corps par rapport à la fin de la vie, mais aussi la pratique du corps par rapport aux pratiques SM, et notamment toute la jurisprudence européenne qu'il peut y avoir derrière, ou même française.
Bon, alors j'avais failli prendre comme exemple de ce que nos discours et nos interventions peuvent modifier en fait la loi et les mots de la loi. Donc j'avais pensé évidemment à l'euthanasie. Bon, mais quand vous voulez que je parle de la pratique, je ne sais pas très bien quoi vous dire. Parce que bon, d'abord, en matière de sexualité, soyons clairs, entre adultes, consentants, majeurs, on peut tout faire. Bon, on peut tout faire, évidemment, jusqu'au point où vous allez tomber éventuellement sous l'incrimination de coups et blessures volontaires ou involontaires ayant entraîné la mort ou pas. Voilà, c'est ça la limite. Mais sinon, on peut faire des tas de choses. Il n'y a pas de... Voilà, c'est qu'à un moment donné, la liberté que l'on s'octroie, elle dépasse ce que l'État estime être admissible parce qu'on porte atteinte à l'intégrité du corps de l'autre. Je dis bien volontairement ou involontairement. Sauf erreur de ma part, la Cour européenne a rendu un arrêt il y a déjà quelques années. Mais soudain, j'ai un trou de mémoire, je ne me souviens plus quel était le sens de l'arrêt. Je crois qu'on avait admis des pratiques sadomasochistes entre personnes adultes consentantes. Comment il s'appelle cet arrêt ? J'ai un trou de mémoire. Ça vous dit rien ? Vous êtes au courant ou pas ? Non, vous avez. Ouais, mais là, je peux. En fait, je suis vraiment désolée parce que je peux pas vous répondre. La Cour européenne a rendu un arrêt. Il y a déjà peut-être une petite dizaine d'années là-dessus, en 97, il me semble. Mais comme ça fait longtemps que j'ai pas eu à traiter cette question, à vrai dire, je m'en souviens plus.
Dans ces livres, Ruben Augien justement sous-entend
Donc dans ces livres, Ruben Augien sous-entend justement que les pratiques SM par la jurisprudence européenne sont interdites justement sous l'effet du fait qu'on ne doit pas porter intégrité au corps et que l'État est garant de l'intégrité du corps d'autrui.
Oui, mais on peut avoir des pratiques SM qui ne vont pas... Enfin, bon, alors évidemment, vous aurez compris que je ne suis pas une adepte du SM parce que manifestement, j'y connais rien. Après la question de l'atteinte à l'intégrité du corps, au fond, on est dans un huis clos, dans une pratique. À deux, trois, quatre éventuellement, enfin plus, bon... Mais dans la pratique elle-même, si vous portez atteinte à l'intégrité du corps de l'autre, finalement, qui va le savoir ? C'est vous qui participez, donc très bien. Qui va se plaindre ? S'il n'y a pas de plaignant, il n'y a pas de problème. Là, je raisonne en pragmatiquement. Hein. Je ne raisonne pas juridiquement. Il n'y a pas de plaignant, il n'y a pas de problème. Donc, vous faites ce que vous voulez. Là où il y a une difficulté, c'est qu'à partir du moment où on sait que... Enfin, où il y a une plainte. Ah oui, on peut imaginer. Oui, effectivement. Alors après, se pose la question. Non, je suis d'accord, mais après la question, c'est la question de la limite de jusqu'où on admet la liberté que chacun a de disposer de son corps. Et c'est exactement la même question par rapport à l'euthanasie. Voilà. Ça peut être aussi la même question par rapport aux travailleurs du sexe. Voilà. Et donc après, c'est une question de degré. Si moi je devais répondre, même si ça va vous surprendre, ça peut vous surprendre. Par exemple, je suis pour un statut du travailleur du sexe. Je suis l'avocate de l'ADMD, donc une association qui souhaiterait plutôt qu'on puisse avoir une euthanasie active. Pour les pratiques SM, j'ai pas d'opinion. Je sais pas. Voilà, mais en parlant de pratiques SM, d'ailleurs, je viens de me souvenir qu'il y a eu un arrêt de la Cour européenne qui vient d'être rendue il n'y a pas très très longtemps et qui a ça concernait un homme qui avait des pratiques SM et qui de mémoire je crois que il était en photo il avait été pris en photo masqué, on pouvait pas vraiment le reconnaître, mais bon, et sa photo était arrivée sur le net, sur un site particulier, donc il fallait y aller. Et cet homme était travailleur social en Grande-Bretagne. Son employeur, pour une raison que j'ignore, a été informé et il a été licencié. Et il a saisi la Cour européenne en disant mon employeur invoque un élément de ma vie privée pour me licencier, donc c'est une atteinte à mon droit à avoir une vie privée familiale. Et la Cour a rejeté en fait sa demande. Donc ça veut pas dire. Alors je le rappelle. Donc elle a considéré qu'en fait l'employeur pouvait valablement licencier cet homme, dont il y avait une photo de lui nu, mais on ne le reconnaissait pas, mais parce qu'il était travailleur social et ayant affaire à un certain milieu. Cette décision me paraît critiquable. Ça montre qu'on a encore beaucoup de préjugés. Cet homme n'exerçait pas sa pratique alors qu'il était au boulot, voilà. Et si on va sur Internet, on y va volontairement. Cet arrêt me semble critiquable quant à la pratique. Donc, mais
il faudrait essayer de suivre le raisonnement aussi de l'employeur.
Le raisonnement de l'employeur, ça consistait à dire, de mémoire, parce que je l'ai lu il y a quelque temps déjà, ça consistait à dire, en tant que travailleur social et ayant affaire à une population particulière, vous ne pouvez pas vous présenter comme ça, voilà. Ou on ne doit pas pouvoir vous trouver comme ça. C'était d'ailleurs même pas lui qui avait mis la... Oui, c'était d'ailleurs même pas lui, je crois, qui avait mis la photo, ou la vidéo, je ne sais plus. Je répète qu'il était masqué, on ne pouvait pas le reconnaître, en fait. Hein. Donc... Donc il y a une forme de puritanisme ou une forme de moralisme qui demeure encore très très prégnant, mais bon, c'est un peu, enfin j'ai envie de dire c'est normal, je veux dire ça fait partie aussi de la société dans laquelle on vit, j'ai envie de dire chacun défend son bout de gras, hein. Les églises défendent leur bout de gras et très 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 vigoureusement quand vous voyez que doit être présentée à l'ONU une résolution pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité et que le Vatican a pris position publiquement pour dire que non, il fallait surtout, pour s'opposer à cette résolution, parce que le Vatican a bien compris que c'était ensuite une possible ouverture vers un traitement égalitaire par rapport aux homosexuels. Donc bon, le Vatican ne peut pas. Mais bon, c'est impressionnant. Il faut le savoir. Et après, bon, il faut savoir où on est et savoir où est-ce qu'on lutte, si on a envie de lutter, bien sûr. Parce que bon, ça, c'est aussi chacun qui voit dans sa vie ce qu'il a envie de faire.
Ah, peut-être. Ah, on se réveille à la dernière minute.
C'est bien.
Non,
c'est pas grave. J'ai bien conscience que je n'ai pas tout à fait répondu à votre question.
Je voulais revenir sur
comment ça se fait que, enfin, je ne connais pas par cœur, mais il y a un problème, un paradoxe entre la loi sur l'adoption et sur la technique de reproduction. C'est-à-dire que l'adoption est possible pour une célibataire, une femme célibataire, alors que la reproduction, enfin, l'insémination artificielle en France, non, ni aux couples homosexuels. Donc, enfin, c'est alors que, enfin, à l'étranger, c'est différent. Mais comment ça se fait que dans la loi, il y ait un peu un paradoxe de d'avoir, enfin, une femme seule peut adopter, et enfin aussi, disons que elle peut vivre en couple avec une autre femme sans la déclarer, mais adopter en tant que célibataire, peut-être, je sais pas. Et comment est-ce qu'on peut lutter, enfin, dans la loi, ou enfin, on en est où en fait? Est-ce qu'il y a des débats? Est-ce qu'il y a des voilà.
Bon, schématiquement, la loi sur l'adoption, elle permet quoi? Elle permet à un couple de hétérosexuels mariés d'adopter, ou à une personne célibataire mariée. D'adopter. Donc, un couple marié peut adopter, une personne célibataire peut adopter. Ça s'explique, pour l'adoption par une personne célibataire, ça s'explique un peu pour des raisons historiques, parce que la loi a été adoptée en 1966 et qu'à l'époque, il y avait toute une série de femmes qui étaient des familles d'accueil, qui étaient seules, et on voulait leur permettre d'adopter. Voilà. Bon. Après, on en a fait un autre usage. Bien. La loi sur la procréation médicale en France, elle est issue d'une. Elle est issue de. Donc, en fait, il y a trois lois qui ont été adoptées en 1994. Avant, il n'y avait rien, et donc ça dépendait un peu de la pratique. Des pratiques des SECOS, des centres, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bon, bon, bref, peu importe. Elle a fait l'objet d'une première révision en 2004, et actuellement, enfin, elles ont fait l'objet d'une première révision en 2004, et l'année 2009 va voir les états généraux des lois bioéthiques, puisque donc on va à nouveau les réexaminer, c'est-à-dire faire un comparatif entre bon, la loi, la pratique et qu'est-ce qui doit évoluer. Bien. Enfin, toujours depuis 1994, les PMA, c'est-à-dire la possibilité pour un couple d'avoir recours aux techniques de procréation médicalement assistée, donc c'est soit une insémination artificielle, soit la fécondation in vitro, soit le don d'embryon. Donc, il s'agit toujours d'un couple hétérosexuel, marié ou vivant en concubinage depuis plus de 2 ans. Ça, c'est le premier critère. Et il y a un deuxième critère qui est cumulatif, on va dire. Ce sont des couples qui doivent souffrir d'une infertilité pathologique ou qui, s'ils ne sont pas infertiles, risquent pour des raisons X, Y, en donnant naissance à un enfant, de lui transmettre une maladie génétiquement grave. Bien. Donc, effectivement, les PMA ne sont pas accessibles aux couples homosexuels ou aux femmes célibataires. Pour quelles raisons ça ne s'est pas fait comme ça? D'abord parce que, un, je pense qu'en 1994, il était hors de question d'envisager qu'un couple homosexuel puisse avoir des enfants, de quelque manière que ce soit, et alors a fortiori pas avec la PMA. Et... bon, pour une raison que j'ignore, comme il y a cette condition cumulative de souffrir d'une infertilité pathologique ou de risquer de transmettre une maladie génétique grave, c'était assez restrictif, y compris pour les couples hétérosexuels. Bon, il y a eu toute une série de conférences et de débats cette année, là, en 2008, pour justement élargir l'accès au PMA aux couples homosexuels, ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Aux femmes célibataires, ça n'en prend pas le chemin. Et il y a en revanche une petite avancée sur le possible recours à la gestation pour autrui qui serait encadrée, etc. Bon, avec en même temps des oppositions très fortes. Récemment, il y a eu un rapport récent qui est tout à fait opposé, alors que les sénateurs sont plutôt, après avoir fait un peu un tour d'horizon en Europe, ont, semble-t-il, compris que c'était peut-être plus intelligent d'encadrer, donc de surveiller, de contrôler, plutôt que de laisser partir des couples dans la nature. Parce que, de toute façon, quand les gens veulent un enfant, et quand ils le veulent vraiment, ils l'ont. Ça, alors là, donc moi, je pense qu'il faut partir de ce constat-là, ils l'ont. Parce qu'ils le veulent vraiment. Donc, ils feront tout. Et je peux vous dire que dans mon cabinet, je vois même des gens qui viennent me dire « j'ai reconnu l'enfant d'un tel » ou « c'est pas leur enfant », peu importe. Donc moi, il me semble toujours plus intelligent que le législateur contrôle d'une certaine manière. Ça permet une certaine sécurité plutôt que de laisser comme ça les gens se balader. Voilà. Et après, il faut voir comment on met en place des règles. C'est faisable. Mais sur ces questions, en France, on n'est pas du tout à l'avant-garde. Et moi, j'ai l'intime conviction que c'est vraiment, ça résulte du poids de l'Église. Ça, on a beau dire que nous sommes une société laïque, je pense que le poids de l'Église est encore très, 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 très fort sur ces questions-là. Et d'ailleurs, on vient encore de voir Benoît XVI prendre position publiquement pour dire pas de procréation médicalement assistée. Non, ce n'est pas exactement ça qu'il a dit. Il a fait une intervention récemment sur ce domaine-là, mais je ne me souviens plus de ce qu'il a dit. Donc, voilà. Donc, ça évoluera, et ça évoluera pourquoi ? Enfin, ça, de toute façon, il y a un moment ou un autre, ça va évoluer. Pourquoi ? Parce que, ne serait-ce qu'en Europe, on a des législations qui permettent déjà le recours à la procréation médicalement assistée pour des couples de lesbiennes ou pour des femmes seules, ou la gestation pour autrui. Il suffit d'aller en Grèce. Voilà, c'est des paradoxes. Ou au Royaume-Uni. Bon, c'est paradoxal, mais c'est possible. Pas au Royaume-Uni parce que c'est une culture anglo-saxonne. Donc c'est à la fois normalement une culture protestante, c'est une culture pragmatique. Donc, ils sont pragmatiques. Ils ne se posent pas de questions idéologiques, loin de là. Alors après, ça a d'autres inconvénients. Ils sont moins conceptuels. Donc, bon. Donc c'est moins séduisant pour l'intellect. Mais bon, on ne vit pas non plus que d'intellect. La vie, ce n'est pas que ça.
En tout cas, ce n'est pas le même problème pour un enfant qui est déjà né et pour un enfant à naître. Enfin, s'il y a quelque chose à penser, c'est quand même ça. La question ne se pose pas en tout cas tout à fait de la même manière.
Ah oui, vous voulez dire par rapport à l'adoption et par rapport à...
Oui, une mère célibataire adoptant un enfant,
oui.
C'est quand même pas le même schéma. Donc,
oui, je suis d'accord. Non, je suis d'accord.
On prend le point de vue de l'enfant, simplement, il y a un enfant qui est né.
Oui, mais vous savez, derrière le point de vue de l'enfant, généralement, quand celui qui avance le point de vue de l'enfant, il met sa propre opinion. Et...
Essayez de voir ce que j'y mets, en tout cas.
Non. Déjà, simplement, je suis d'accord. Hein. Oui, je suis d'accord. Hein.
C'est le fait qu'un enfant qui est né, il a vraiment... Il y a un besoin, quoi. Enfin, c'est un peu pragmatique et bébête ce que je dis, mais...
Je suis d'accord. Dans l'absolu, vous avez raison, un enfant qui est déjà né, il y a un besoin pragmatique. Alors maintenant, je vais peut-être vous enlever vos illusions parce que... Non, mais...
Je demande que ça.
Les gens qui souhaitent adopter, enfin les adoptants, ils leur demandent, dans 95% des cas, c'est ils veulent un nourrisson qu'à 2 mois, 3 mois, 4 mois. D'accord ? Donc il y a assez peu de nourrissons à adopter. En revanche, des enfants qui ont 2, 3, 4 et plus, il y en a plein. Mais par contre, ça, personne n'en veut.
Mais ça ne m'étonne pas.
Donc,
dans le sens de l'égoïsme humain.
Oui.
Comme on le connaît. C'est... Enfin, bon. Mais bon, il n'empêche, il faut... c'est des choses comme ça, justement, sur lesquelles on peut se baser pour penser ces choses. Il faut d'un côté placer un enfant qui est né et de l'autre côté, un enfant qui n'est pas né. Donc là, je pense que les choses peuvent s'éclairer, quoi. Pour moi, ça, c'est clair quand on pose les choses comme ça. C'est normal que la législation ne soit pas la même, à mon avis, pour un enfant qui est né, pour un enfant qui est à venir. Et pour moi, un enfant qui est à venir, idéalement, il vient avec deux parents. J'irai pas plus loin. Mais... Donc, un parent, pourquoi pas ? Enfin, un parent, s'il n'y a pas mieux. Et puis, voilà, et s'il y en a zéro, c'est la cata, quoi.
Non, mais ça, c'est un point de vue qui peut se défendre. J'ai pas grand-chose à dire par rapport à ça. Moi, si je vous voulais mon opinion personnelle, je pense qu'il faut toujours deux parents. C'est généralement mieux. Mais j'ai dit deux parents. J'ai pas dit hétéro, j'ai dit bien deux parents. D'abord parce que je pense que dans le couple parental, c'est quand même vachement plus simple. Bon, après, Si vous voulez, après, on peut aller aussi plus loin. On peut aussi dire, bon, mais alors à ce moment-là, il faut contrôler le fait qu'on donne naissance à des enfants... au sein de famille où franchement vous auriez pas envie de grandir, enfin bon, c'est assez compliqué. Alors oui, mais on peut aussi l'élargir de cette façon-là. Je pense que, enfin, moi j'ai toujours des exemples horribles en tête. Je pense à Madame Badawi, l'affreuse mère d'Outreau, Je pense que j'aurais pas aimé naître dans sa famille. Et pourtant, bon, personne n'a contrôlé le fait qu'elle fasse des gosses. Hein. Et voilà. Ça, c'est un exemple, effectivement, un peu provocateur. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Maintenant, la volonté d'avoir un enfant, elle peut être très forte. Elle peut être une garantie, comme elle peut ne pas être une garantie. Effectivement. De toute façon, la première question, c'est, à mon sens, c'est même au-delà de ça. Sur les techniques de PMA, c'est pourquoi un enfant à tout prix de soi. Hein, donc, la question qui se pose, c'est
de l'égalité de traitement, justement.
Non, mais la question qui se... Oui. Ça, je sais bien. La question qui se pose, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, j'allais embrayer sur ce que vous venez de dire. En fait, c'est bon. Sur quels critères on dit que bon, c'est possible quand on est marié ou en concubinage hétérosexuel et pas possible quand on est en concubinage ou pacsé de personnes de même sexe ou quand on est célibataire. Bon, voilà. Mais ça reste ouvert. Le débat est ouvert, en fait. De toute façon, ce que je sais, c'est que si c'est pas possible ici, ça sera fait ailleurs. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, ailleurs, c'est faisable.
Accompagner la volonté de l'enfant, etc. Et accompagner quelque chose plutôt que d'interdire bêtement, ça c'est évident. Mais ça, à la limite, c'est plus ça, c'est de l'intelligence pratique.
Oui.
Après, on est obligé. C'est vachement important.
On est obligé. Parce qu'on rentre, je crois, dans d'autres domaines, là. On rentre dans la marchandisation du décor.
La loi, il y a plusieurs niveaux dans la loi, effectivement. Il y a des niveaux un peu des hauts, et puis il y a des niveaux après.
Je vous dirais que sur les lois bioéthiques, le niveau idéal, quand vous avez un... Enfin oui, il y a de toute façon, il y a toujours une dimension symbolique, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension symbolique, il y a une dimension imaginaire, et puis il y a une réalité pratique.
Après, je sens à la jurisprudence, parce que si idéalement, comme vous avez l'air de le faire dans votre pratique, on vous traitait ces choses-là au cas par cas, écoutant les problèmes, c'est aussi c'est peut-être un peu ce que vous soulignez. C'est des domaines où il faut se méfier de la loi et des grandes généralités, des choses assommantes. Enfin, l'idéal est dangereux, effectivement. C'est pour ça que c'est très très pointu comme débat, parce que alors l'euthanasie, c'est pareil.
Oui.
Mais ça force à penser, comme un peu le truc. Mm-hmm. C'est des choses justement qui obligent à penser vraiment fermement et profondément, parce que là, on est dans des, à la fois on a des idéaux qui sont puissants.
Et puis on est confronté à une situation particulière.
Comment ?
On a un idéal de vie, mais en même temps on est confronté à une situation particulière qui n'a rien à voir.
On est dans l'intime, oui. Dans l'intime avec des souffrances, quoi, avec des gens, des désirs puissants qui peuvent pas aboutir, même pour l'adoption, enfin de parents entre guillemets normaux qui veulent adopter, c'est une telle croix et bannière, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Enfin. Ça se comprend.
La croix et la bannière, c'est parce que les adoptants veulent des tout petits bébés, donc il n'y en a pas beaucoup, c'est ça.
Oui, d'accord, ça je l'apprends, effectivement.
Ouais. Très bien.
C'est très recherché les bébés maintenant, dans les maternités, on leur met des bracelets. Il y a des voix de bébés parfois.
Merci Annie de cette intervention. On va peut-être arrêter là. Moi, je voulais rappeler juste deux slogans pour finir. Donc, deux slogans d'Act Up, évidemment. Hein, je viens pas de nulle part. Savoir égale pouvoir et par le sang, par le sperme, par la loi. Voilà. Et je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous rappelle les prochaines séances du séminaire. La prochaine fois, ce sera le 21 janvier avec une autre performance. Corps performé, réalité sociale avec les King du Berry et les Kisses Scotch Trouble. Prochaine séance des écrans sociaux le 14 janvier avec La Borde ou le droit à la folie. Et prochaine séance de Sun in Your Head le 16 janvier, Insurgé du corps, en action à l'écran par Elisabeth Lebovici avec un film de Jackie Reynal. Voilà, je vous remercie et bonne soirée. Merci.